Chapitre 26. Daeman aurait dû se faxer à Ardis pour faire son rapport, quitte à parcourir en pleine nuit les 2 kilomètres séparant le pavillon du manoir, mais il en était incapable. Si importante fut l'apparition de ce trou dans le ciel, il n'était pas encore prêt à retourner là-bas. Il composa un code naguère inconnu, l'un de ceux qu'ils avaient testés 6 mois plus tôt, alors qu'ils parcouraient les 409 neufax recensés en quête de personnes ayant survécu à la chute, redécouvrant du même coup certaines destinations oubliées. Il débarqua dans la chaleur et le soleil. Le pavillon se trouvait sur un talus entouré de palmiers oscillant doucement sous la brise marine. La plage prenait naissance juste au-dessous, un croissant de sable blanc entourant un lagon aux eaux si claires qu'on distinguait le sable jusqu'à une profondeur de 12 mètres. Personne ne résidait ici, ni post-humain, ni humain à l'ancienne, bien que Daeman eût découvert les ruines d'une ville antérieure au dernier fax, un peu au nord de la plage. Il n'avait vu aucun Voynix lors de ses précédentes visites en ce lieu. Un jour, cependant, un gigantesque saurien aquatique avait surgi de l'écume par-delà le récif pour replonger l'instant d'après avec dans la gueule un requin de 10 mètres de long. Mais, exception faite de ce spectacle déconcertant, il n'avait jamais rien vu de menaçant dans les parages. Il descendit jusqu'à la plage, laissa choir sur le sable sa lourde arbalète et s'assit à côté d'elle. Le soleil était brûlant. Il se débarrassa de son sac à dos, de son anorak et de sa chemise. Quelque chose dépassait d'une poche. Le turin de la table au crâne. Il le jeta sur le sable. Puis il ôta ses chaussures, son pantalon et son slip, et nu comme un ver, se dirigea vers l'eau sans même jeter un coup d'œil vers les arbres pour s'assurer qu'il était seul. « Ma mère est morte !» Cette constatation lui fit l'effet d'un coup de poing, et il crut qu'il allait se remettre à vomir. Morte. Daeman marcha jusqu'au bord de l'eau. Immobile devant le lagon, il laissa les vagues tièdes lui lécher les pieds, remuer le sable sous ses orteils. Morte. Plus jamais il ne la reverrait. Plus jamais il n'entendrait sa voix. Jamais, 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 jamais. Il se laissa choir lourdement sur le sable humide. Daeman s'était cru réconcilié avec ce nouveau monde, où le trépas était définitif. Il pensait avoir accepté cette obscénité en affrontant sa propre mort 8 mois plus tôt sur l'île de Prospero. « Je savais que je mourrais un jour. Mais pas ma mère. Pas Marina. Ce n'est pas... juste. » Il partit d'un rire douloureux en réalisant l'absurdité de cette idée. On déplorait des milliers de morts depuis la chute, et il était bien placé pour le savoir, car en tant qu'émissaire d'Ardis dans les autres communautés, il avait vu les sépultures, il avait même appris à ses semblables comment on creuse une tombe, comment on met un défunt en terre afin qu'il pourrisse. Ma mère, est-ce qu'elle avait souffert? Est-ce que Caliban avait joué avec elle? Est-ce qu'il l'avait torturée avant de l'achever? Je sais que c'est Caliban qui a fait ça. Il les a tous tués. Peu importe que ce soit impossible, c'est vrai. Il les a tous tués. Mais uniquement pour s'en prendre à ma mère, pour poser son crâne au sommet de cette pyramide avec ses mèches de cheveux roux, pour m'interdire même l'ombre d'un faux espoir. Caliban, espèce de fils de pute aux joues creusées d'ouïe, de lécheur de cul assassin, de baffreur démoniaque, de... Daeman ne pouvait plus respirer. Son thorax était bloqué. Il ouvrit la bouche en grand comme pour vomir une nouvelle fois, mais rien ne pouvait en sortir, rien ne pouvait y entrer. Morte. À jamais. Morte. Il se releva, fit quelques pas dans l'eau chaude, et puis plongea, nageant à vive allure en direction du récif, là où les vagues enflaient, là où il avait vu le mastodonte refermer ses mâchoires sur un requin. Il nageait de toutes ses forces, sentant l'eau salée lui piquer les yeux et les joues. Nager lui permit de respirer. Au bout d'une centaine de mètres, parvenu à l'embouchure du lagon, il fit un peu de surplace, sentit les courants froids l'attirer vers le large, regarda les vagues s'écraser par-delà le récif, savoura leur fracas musical, faillit se laisser emporter par le souffle de l'océan vers le large. Contrairement à l'Atlantique, le Pacifique n'était pas traversé par une brèche, si bien qu'il risquait de dériver pendant plusieurs jours. Puis il fit demi-tour et nagea vers le rivage. Lorsqu'il sortit de l'eau, il resta nu mais se préoccupa à nouveau de sa sécurité. Tournant vers le ciel sa paume gauche couverte de sable, il appela la fonction Farnett. Il se trouvait sur une île du Pacifique Sud. Daiman faillit éclater de rire car 9 mois plus tôt, avant de faire la connaissance d'Arman, il ne savait même pas que la Terre était ronde. Il ignorait les noms des océans comme des continents, ne savait même pas qu'ils étaient plusieurs les uns comme les autres. Et à quoi ça lui aurait servi d'apprendre toutes ces conneries? À rien, pour autant qu'il pouvait en juger. Mais le Farnett lui montra qu'il n'y avait ni Voynix ni humains à l'ancienne dans les environs. Il retourna près de ses vêtements et s'installa sur l'anorak après l'avoir étalé comme une serviette de plage. Ses jambes bronzées étaient couvertes de sable. Alors qu'il se baissait, une bourrasque de vent s'empara du Turin et le fit voler au-dessus de sa tête en direction du lagon. Agissant par réflexe, il l'attrapa au vol. Il s'ébroua et se sécha les cheveux sur l'ourlet du tissu brodé d'électronique. Daiman s'allongea sur le dos sans lâcher le Turin et fixa le ciel d'un bleu sans nuages. « Elle est morte. J'ai tenu son crâne entre mes mains. » Comment avait-il su que ce crâne-ci et pas un autre était celui de sa mère, abstraction faite de ses mèches de cheveux roux? Qui en était sûr? Peut-être aurais-je dû la laisser reposer avec les autres. Non, pas avec ce crétin de Goman qui avait insisté pour qu'elle reste vivre à Paris-Cratère. Non, surtout pas. Daiman revit comme s'il y était le minuscule crâne blanc tombant vers l'œil de magma rouge du cratère. Il ferma les yeux en grimaçant. Sa souffrance était pareille à une blessure, à un fer planté derrière ses yeux. Il devait regagner Ardis pour raconter à tout le monde ce qu'il avait vu. La preuve du retour de Caliban sur Terre, ce trou ouvert dans le ciel nocturne, et cette chose titanesque qu'il avait franchie. Il imagina les questions d'Arman, de personne, d'Ada ou des autres. Comment peux-tu être sûr qu'il s'agissait de Caliban? Daiman le savait. Il existait un lien entre ce monstre et lui depuis que tous deux s'étaient affrontés en gravité zéro dans cette grande cathédrale en ruine qu'était l'île orbitale de Prospero. Depuis la chute, il savait que Caliban n'était pas mort, qu'il avait probablement réussi à fuir cette île pour gagner la Terre, si impossible cela fût-il. Mais comment le sais-tu? Il le savait. Voilà tout. Comment une créature plus petite qu'un Voynix aurait-elle pu tuer une centaine d'habitants de Paris-Cratère, des hommes pour la plupart? Caliban avait peut-être recruté ses clones du bassin méditerranéen, les Calibani, créés par Prospero plusieurs siècles auparavant pour éloigner les Voynix de Cétébos. Mais Daiman jugeait cette hypothèse peu crédible. C'était de ses propres mains que Caliban avait massacré sa mère et tous les résidents de sa tour. Pour m'envoyer un message. Si Caliban voulait envoyer un message, pourquoi n'est-il pas venu à Ardis pour nous massacrer tous en te gardant pour la fin? Bonne question. Daiman pensait en connaître la réponse. Il avait vu la créature s'amuser avec les lézards sans yeux qu'elle pêchait dans son repère marécageux sous la cité orbitale. Elle jouait avec eux, faisait mine de les relâcher, puis n'en faisait qu'une bouchée. Et il avait vu Caliban s'amuser avec eux, avec Arman, sa vie et lui, faire mine de dialoguer avec eux, puis sauter sur la vieille femme pour lui planter ses crocs dans la gorge, l'emporter sous les eaux pour la dévorer en paix. Il fait joujou avec nous tous. Quelle était cette chose qui a franchi le trou au-dessus de Paris-Cratère? Encore une bonne question. Qu'avait-il vu au juste? La lumière issue du trou était aveuglante et il y avait ces débris soulevés par le vent. Une gigantesque cervelle visqueuse se propulsant sur des mains? Daiman imaginait sans peine les réactions qu'il susciterait au château d'Ardis, sans parler des autres communautés. Sauf qu'Arman ne rirait pas. Il se trouvait aux côtés de Daiman et de sa vie qui n'avait plus que quelques minutes à vivre, lorsque Caliban, de sa voix sibilante et caquetante, avait entonné une étrange litanie consacrée à son père et Dieu, Cétébos.
Cétébos, Cétébos, et Cétébos, avait crié le monstre. Pense-t-il, lui demeure dans la froideur de la lune.
Et plus tard,
Pense-t-il cependant que c'était Bos, pourvu d'autant de mains qu'une sèche, qui redoute ce que lui fait, tout en se faisant lui-même, voit et perçoit qu'il ne peut s'envoler vers la quiétude et le bonheur, et fait cette babiole de monde pour singer le réel, ces belles choses-ci pour imiter celles-là, comme les hanches le raisin. »
Plus tard, Daeman et Harman étaient tombés d'accord pour dire que cette babiole de monde désignait l'île orbitale de Prospero. Mais c'était à Sétébos, le dieu de Caliban, qu'il pensait maintenant. Sétébos, pourvu d'autant de mains qu'une sèche. Quelle était la taille de cette chose que tu as vue débarquer par le trou? Sa taille? Elle paraissait plus grosse que les bâtiments les moins imposants. Mais il y avait cette lumière, cette poussière, cette montagne démesurée au second plan. Daeman n'avait aucune idée de sa taille. Il faut que j'y retourne.
Tout Jésus,
gémit-il. Il savait maintenant que ces mots que tous utilisaient depuis leur plus jeune âge faisaient référence à un dieu oublié de l'ère perdue.
D'où Jésus?
Il n'avait aucune envie de retourner à Paris-Cratère. Il aurait voulu rester sur cette plage, en sécurité, au chaud et au soleil. Qu'a fait cette sèche géante une fois arrivée à Paris-Cratère? Venait-elle y retrouver Caliban? Avant de rentrer à Ardis, il devait retourner là-bas, y effectuer une reconnaissance. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. La souffrance et le chagrin menaçaient de lui donner une migraine carabinée. Et ce soleil brillait beaucoup trop fort. Il commença par se plaquer une main sur les yeux, mais la lumière ne fit que se parer d'une nuance de chair, puis il se voila la face avec le Turin, comme il l'avait déjà fait à maintes reprises. Il ne s'était jamais passionné pour l'épopée du Turin. Séduire les jeunes femmes et collectionner les papillons, c'était ses seules obsessions. Mais l'ennui ou la curiosité l'avait incité à en tâter de temps à autre. Poussé par la force de l'habitude, car il savait que les Turins étaient aussi inertes que les serviteurs et le réseau électrique, il plaça les micro-circuits brodés au centre de son front et reçut un flot d'images, de voix et de sensations. Achille s'agenouille devant le cadavre de l'Amazone pentésilée. Le trou s'est refermé. Mars la Rouge s'étend au sud et à l'ouest, le long de la côte de la mer de Tétis, et il ne reste plus une seule trace d'Ilium et de la Terre. Et la plupart des capitaines qui ont affronté les Amazones à ses côtés ont réussi à le franchir à temps. Le grand et le petit Ajax sont disparus, ainsi que Diomède, Idoménée, Stichios, Sthénélos, Euryale, Théoucros, Odysseus lui-même est parti. Certains Achéens, Evénor, Podarcès et son ami Ménippos, gisent parmi les cadavres d'Amazone. Dans la panique et la confusion qui ont accompagné la fermeture du trou, même les Myrmidons, les fidèles guerriers d'Achille, ont fui avec la foule, pensant que leur héros les avait précédés. Achille est seul parmi les morts. Le vent martien, qui tombe depuis les hauteurs des falaises d'Olympos, souffle sur les armures fracassées, fait frémir les flèches et les javelines qui clouent les corps à la terre rouge. Le tueur d'hommes aux pieds rapides berce la dépouille de Penthésilée, la dépose doucement sur sa cuisse pour lui en faire un coussin. Il pleure des larmes amères devant son œuvre, ce sein percé au cœur, ses plaies qui ne saignent plus. 5 minutes plus tôt, il poussait un cri de victoire à la face de la reine mourante.
« J'ignore quelle richesse Priam a pu te promettre, ô fils stupide. Et voici quelle est ta récompense. Les chiens et les charognards vont se repaître de tes chairs blanches. »
Achille pleure de plus belle en se remémorant ses paroles. Il est incapable de détourner les yeux du noble front de l'Amazone, de ses lèvres encore roses. Ses boucles blondes frémissent sous la caresse du vent, et il guette ses longs cils, espérant les voir trembler, épie ses paupières, espérant les voir s'ouvrir. Ses larmes tombent sur les joues aimées, et il les essuie avec l'ourlet de sa tunique. Ses cils ne bougent point, ses yeux ne s'ouvrent point. La lance d'Achille s'est plantée dans sa cavale après lui avoir traversé le corps de part en part.
« Tu aurais dû l'épouser et non l'assassiner, fils de Pélée. »
Achille lève les yeux, distingue à travers les larmes une silhouette découpée à contre-jour.
« Pallas Athénée, Déesse.
Incapable de poursuivre, le tueur d'hommes étouffe un sanglot. Entre toutes les déités de l'Olympe, Athénée est son ennemie la plus farouche. 8 mois plus tôt, c'est elle qui s'est introduite dans sa tente pour tuer Patrocle, son ami le plus cher. C'est elle qu'il souhaitait le plus massacrer quand il tuait et blessait les autres dieux sans trêve ni repos. Mais il n'y a désormais plus de rage dans le cœur d'Achille. Il n'y a plus que du chagrin. Penthésilée est morte.
« Comme c'est étrange !»
dit la déesse en se penchant sur lui, son armure d'or et sa lance d'or accrochant le soleil descendant.
« Il y a 20 minutes, tu ne pensais qu'à offrir son cadavre en pâture aux chiens et aux charognards. Et voilà que tu pleures sur elle toutes les larmes de ton corps. »«
Je ne l'aimais pas lorsque je l'ai tuée !»
bafouille Achille. Avec une douceur infinie, il achève de nettoyer le doux visage de l'Amazone.
Non, et tu n'as jamais aimé personne avec autant de force,
remarque Pallas Athénée.
Ou du moins aucune femme.
J'ai couché avec bien des femmes,
réplique Achille sans détourner les yeux de Penthésilée.
C'est par amour pour Briséis que j'ai refusé d'affronter Agamemnon.
Athénée s'esclave.
Briséis était ton esclave, fils de Pélée. Toutes les femmes que tu as mises dans ton lit, y compris la mère de ton fils Pyrrhos, que les Argiens appelleront un jour Néoptolème, étaient tes esclaves, les esclaves de ton égo. Tu n'as jamais aimé de femme avant ce jour, Achille aux pieds rapides.
Achille voudrait se lever et se jeter sur la déesse. Il s'agit après tout de son ennemi, c'est elle qui a tué son bien-aimé Patrocle, c'est à cause d'elle qu'il a entraîné son peuple dans la guerre contre les dieux, mais il constate qu'il ne peut pas s'arracher au corps de Penthésilée. Si elle n'a pas réussi à l'atteindre de sa lance meurtrière, elle l'a néanmoins frappé en plein cœur. Jamais, même lorsqu'a péri Patrocle, le plus cher de ses amis, jamais le tueur d'hommes n'a éprouvé un tel chagrin.
Pourquoi aujourd'hui ?
Bafouille-t-il entre deux sanglots.
Pourquoi elle ?
Tu es victime d'un charme conçu par Aphrodite, la déesse du désir,
déclare Athénée qui se place devant le cheval terrassé afin qu'Achille la voie mieux.
Aphrodite et Arès, son frère incestueux, n'ont jamais cessé de contrer ta volonté, de tuer tes amis et d'étouffer tes joies, Achille. C'est Aphrodite qui a tué Patrocle et enlevé son corps il y a 8 mois de cela.
Non, j'étais là. J'ai vu.
Tu as vu Aphrodite usurpant ma forme,
coupe Pallas Athénée.
Ignorais-tu que les dieux avaient le pouvoir de prendre l'apparence qui leur plaît? Souhaites-tu que j'endosse la forme de la défunte Penthésilée, afin que tu assouvisses ton désir avec un corps bien vivant?
Achille la fixe bouche bée. Aphrodite, dit-il au bout d'une minute comme s'il proférait une malédiction.
Je tuerai cette connasse.
Athénée sourit.
Un acte digne de ta valeur. Un acte qui n'a été que trop longtemps reculé, tueur d'hommes aux pieds rapides. Permets-moi de te donner ceci.
Elle lui tend une petite dague à la poignée incrustée de joyaux. Il l'accepte de la main gauche sans lâcher Penthésilée.
Qu'est-ce donc ?
Un couteau.
Je sais que c'est un couteau !
Gronde Achille sans manifester le moins du monde le respect qui est dû à la troisième née de Zeus.
Au nom d'Hadès, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce jouet de fillette alors que je possède déjà une épée digne de ce nom ? Tu peux le reprendre !
Ce couteau n'a rien d'ordinaire,
dit la déesse.
Il peut tuer un dieu.
Mon épée a déjà terrassé bien des dieux.
Certes,
fait Athénée,
mais tu ne les as point tués. Cette lame inflige à la chair immortelle les mêmes plaies que ton épée à la pitoyable chair mortelle.
Achille se redresse, calant sans le moindre effort le corps de Penthésilée sur son épaule. Il brandit la dague de la main droite.
Pourquoi me fais-tu un tel présent, Pallas Athénée? Cela fait des mois que nous nous affrontons sur le champ de bataille. Pourquoi m'aides-tu à présent?
J'ai mes raisons, fils de Pélée. Où est Auchenberry?
Hockenberry ?
Oui. Cet ancien scoliaste devenu l'agent d'Aphrodite. Est-il encore en vie ? J'ai affaire avec ce mortel, mais j'ignore où je dois le chercher. Ces derniers temps, les champs de force Moravec brouillent sensiblement notre vision divine.
Achille regarde autour de lui, cligne des yeux comme s'il venait de remarquer qu'il est le seul être vivant sur la plaine martienne.
Hockenberry était à mes côtés, il y a quelques instants encore. Je lui ai parlé juste avant de la tuer.
Et il se remet à pleurer.
Je suis impatiente de retrouver cet Hockenberry,
reprend Athénée en marmonnant comme pour elle-même.
Aujourd'hui, bien des comptes vont se régler, et le sien est du nombre.
Elle tend une main fine mais puissante, s'empare du menton d'Achille et l'oblige à la regarder dans les yeux.
Fils de Pélée, souhaites-tu que cette femme, cette Amazone, revienne à la vie pour devenir ton épouse ?
Achille la fixe avec intensité.
Je souhaite que soit levé ce charme d'amour, noble déesse.
Athénée secoue sa tête casquée d'or. Son armure étincelle de mille feux.
Jamais tu ne seras libérée de ce sortilège aphrodisiaque. Les phéromones ont parlé et leur jugement est sans appel. Penthésilée sera le seul et unique amour de ta vie, qu'elle soit morte ou vivante. La préférerais-tu vivante ?
Oui !
S'écrie Achille en faisant un pas en avant, la femme morte dans ses bras, un éclair de folie dans ses yeux.
Rends-lui la vie !
Aucun dieu, aucune déesse n'en est capable, fils de Pélée,
répond Athénée avec tristesse.
Comme tu l'as naguère dit à Odysseus, on enlève bœufs, gras moutons, on achète trépieds et chevaux aux crins blonds. La vie d'un homme ou d'une femme, Achille, ne se retrouve pas. Jamais plus elle ne se laisse ni enlever ni saisir du jour qu'elle est sortie de l'enclos de ses dents. Zeus, le père lui-même, n'a pas le pouvoir de ressusciter les morts.
Alors pourquoi me l'as-tu proposé, merde ?
Le tueur d'hommes sent la rage monter dans son cœur en même temps que l'amour. L'huile et l'eau, le feu et... non, pas la glace, mais une autre sorte de feu. Il a une conscience aiguë de cette rage et de la lame tueuse des dieux qu'il tient dans sa main. Comme il ne souhaite pas agir de façon précipitée, il passe la dague à son ceinturon.
Il est possible de ressusciter Penthésilée,
reprend Athénée.
Mais cela n'est pas en mon pouvoir. En revanche, je puis l'asperger d'une variété d'ambroisie qui la préservera de la corruption. Son cadavre aura pour toujours le rouge aux joues et ne cessera de dégager la faible chaleur que tu perçois encore en lui. Jamais sa beauté ne s'effacera.
Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Gronde Achille. Tu crois que j'irai jusqu'à devenir nécrophile pour célébrer mon nouvel amour ?
C'est là un choix qui n'appartient qu'à toi,
répliqua Athénée. Le rictus dont elle gratifie Achille donne à celui-ci des envies de meurtre.
Mais si tu es un homme d'action,
poursuit-elle,
je te conseille plutôt d'emporter le corps de ta bien-aimée au sommet du mont Olympos. C'est là, dans un grand bâtiment sis au bord d'un lac, que se trouve le secret de notre divinité. Une vaste salle emplie de cuves, dans lesquelles d'étranges créatures soignent nos blessures, réparant les dommages que nous avons subis afin que la vie, pour citer tes propos, regagne l'enclos de nos dents.
Achille se retourne pour considérer la montagne inondée de soleil. Elle semble s'élever plus haut que le ciel. Son sommet lui est invisible. Les falaises qui se dressent à sa base, simple prélude à ses flancs proprement dit, mesurent plus de 14 000 pieds de haut.
Gravir Olympos.
Il y avait un escalator, un escalier,
dit Pallas Athénée en pointant sa lance.
On aperçoit ses ruines. Cela reste le chemin le plus praticable.
Je vais devoir lutter pied à pied,
dit Achille avec un terrible sourire.
Je suis toujours en guerre contre les dieux.
Pallas Athénée lui rend son sourire.
Désormais, les dieux se font la guerre entre eux, fils de Pélée. Et ils savent que le trou de Brane s'est fermé pour toujours. Les mortels ont cessé de menacer les halls d'Olympos. À mon avis, personne ne t'attaquera lors de l'escalade, Mais on donnera sûrement l'alarme une fois que tu seras parvenu au sommet.
Aphrodite, murmure le tueur d'hommes aux pieds rapides.
Oui, elle sera là-haut. Et Arès aussi. Ainsi que les autres architectes de ton enfer personnel. Je t'accorde la permission de les tuer tous. Je ne te demande qu'un seul service en échange de mon ambroisie, de mes conseils et de mon amour.
Achille se tourne vers elle et attend.
Détruis les cuves de soins une fois qu'elles auront ressuscité ton Amazone. Tue le guérisseur. C'est une monstrueuse créature à mille pattes, avec beaucoup trop d'yeux et de bras. Détruis tout ce qui se trouve dans le hall du guérisseur.
Mais cela mettra fin à ton immortalité, n'est-ce pas, déesse?
Laisse-moi le soin de m'en inquiéter, fils de Pélée,
dit Pallas Athénée. Elle tend les mains au-dessus du corps sanguinolent de Penthésilée, et une pluie d'ambroisie dorée tombe sur celle-ci.
Va maintenant. Je dois retourner à mes propres guerres. Le sort d'Ilium sera bientôt fixé. Quant à ton destin, c'est ici, sur Olympos, qu'il doit s'accomplir.
Elle désigne l'immense montagne.
Tu m'aiguillonnes comme si j'avais la puissance d'un dieu, Pallas Athénée,
murmure Achille.
Tu as toujours eu la puissance d'un dieu, fils de Pélée.
La déesse lève sa main libre comme pour le bénir,
puis se técut.
On entend un petit coup de tonnerre lorsque l'air emplit le vide soudain créé. Achille étend le corps de Penthésilée au milieu des autres cadavres, le temps de l'envelopper dans un linge blanc qu'il est allé quérir dans sa tente. Puis il va chercher son bouclier, sa lance, son casque, une besace de pain et plusieurs outres de vin, des provisions qu'il a apportées avec lui il y a des heures de cela. Finalement, sanglé de tout son arsenal, il se met à genoux, soulève l'Amazone morte et se met en route vers le mont Olympos.
« Bordel de merde !»
fit Daeman en ôtant le turin de son visage. De longues minutes avaient passé. Il consulta à nouveau la fonction Proxnet. Pas un Voynix dans les parages. Ils auraient pu le dépiauter comme un poisson pendant qu'il était captivé par le turin.
« Bordel de merde !»
répéta-t-il. Seul lui répondit le doux murmure des vagues s'écrasant sur le sable.
Qu'est-ce qui est le plus important?
Marmonna-t-il.
Regagner Radis sans tarder pour y apporter ce turin en état de marche, et déterminer pour quelle raison Caliban ou son maître l'ont laissé là-bas à mon intention, ou bien retourner à Paris-Crater pour voir ce qui mijote cet être aux mains multiples.
Il resta agenouillé sur le sable pendant une bonne minute. Puis il se rhabilla, fourra le turin dans son sac à dos, repassa son épée à sa ceinture, empoigna son arbalète et monta vers le pavillon Fax en haut du talus.